Bonjour, bienvenue sur l'autre radio. Dans le cadre des 30 ans de l'association Lecture en Tête, on retrouve aujourd'hui un nouvel épisode de ces échanges Lecture en Tête à Tête. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Spitzer qui m'accompagne. Donc Sébastien Spitzer, vous êtes auteur, vous êtes invité dans le cadre de la saison 2022-2023 de Lecture en Tête. Vous avez été présent au festival du premier roman en 2018 avec votre premier roman, Ses rêves qu'on piétine.
Et j'en garde un excellent souvenir.
Et ce premier roman, il a également eu 3 prix. Prix Stanislas du premier roman, le prix Emmanuel Robles et le prix Méditerranéen en 2018. Et depuis, il s'est écoulé un certain temps et vous avez écrit également 3 autres romans, Le cœur battant du monde en 2019, La fièvre en 2020, qui lui aussi a obtenu un prix, le prix Bibliothèque pour tous, et La revanche des orages, qui est paru cette année. Alors, Sébastien Spitzer, bonjour tout d'abord.
Bonjour Christine.
Pas salué. Je voulais vous convier à un petit jeu pour commencer cet échange. Je vous ai montré donc 3 photos noir et blanc de photographes plus ou moins célèbres. Et je vous ai demandé d'en choisir une et de nous expliquer pourquoi. Alors comme ça n'est pas très radiophonique les photos, je vais vous demander avant toute chose de la décrire.
C'est une photo donc, qui a été exposée à Arles en 2017 dans le cadre des rencontres de la photographie. J'adore ce festival. J'y suis allé quelques fois et j'en garde un souvenir très ému. C'est une photo de Mathieu Pernaud. Elle date de 1997. Elle aurait été prise à Avignon. Elle s'intitule « Johnny et Vanessa ». C'est une photo étroite, carrée, en noir et blanc, qui montre un homme au visage gonflé. Il a les traits tirés, les yeux pochés, une barbe d'au moins 3 plus 3 plus 3 plus 3 jours, une chemise un peu sale. Il tient dans ses bras un enfant qui se cache la moitié du visage de la main parce que visiblement il est ébloui, cet enfant. Il a un sweatshirt qui lui aussi est assez sale. Les deux, le père et la fille, puisqu'elle s'appelle Vanessa, ont une moue un peu boudeuse. Ils sont assis à l'avant d'une voiture, tous les deux sur le siège passager. Ils regardent sur le côté par la porte entrouverte. Ils fixent le photographe, le père d'un air las et sa fille d'un air plus curieux. Elle est plus curieuse. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces deux-là? Pourquoi j'ai retenu cette photo parmi les 3? Parce que c'est un thème qui m'est si cher. La filiation, la relation au père. On peut imaginer 1000 choses, mais j'ai vu immédiatement le père qui retrouve son enfant, qu'il n'a pas vu depuis quelque temps. Et cette petite fille qui est heureuse de se retrouver lovée au creux de son père. J'imagine ça, c'est peut-être tout le contraire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je me dis en la voyant. Le père est... on veut peut-être au photographe de prendre cette photo parce qu'il aurait voulu garder ces quelques minutes, ces quelques heures, ce week-end peut-être, le garde. Rien que pour lui. Mais bon, il pose pour la bonne cause. Elle est touchante parce que le père enveloppe son enfant des deux bras. Sa fille est qui doit avoir 6-7 ans à peine. Non, 5 ans. Avec cette petite main menue, là, des enfants, qui est encore potelée. Oui, elle a 5-6 ans à peine. Elle a l'air de regarder le photographe en disant « Bon, c'est bon maintenant, je peux retrouver mon père. » Elle ne dit pas « Je peux aller jouer. » Elle n'est pas impatiente, elle est juste bien là où elle est, dans les bras de son père. Ouais, c'est une très jolie photo.
Merci Sébastien d'avoir fait ce choix, en effet. Et c'est vrai que, donc, pour compléter, Mathieu Pernaud, donc le photographe, a suivi, il a rencontré une famille de tziganes quand il faisait ses études à Arles, ses études de photographe. Et il a fait des photos de cette famille tzigane. Et 20 ans après, il est revenu, il a refait des photos de la famille. Et donc, c'était une expo qu'on pouvait voir à Arles récemment.
Ah, Jean du voyage, la voiture.
Voilà.
Prêt à repartir.
Et ouais. Sébastien Spitzer, merci en tout cas de vous être prêté à ce petit jeu. Vous avez parlé de filiation. Il y a aussi un thème beaucoup plus large, mais qu'on retrouve dans vos romans, c'est celui de l'histoire. Pas la grande histoire, disons plutôt la face cachée de l'histoire ou la petite histoire dans la grande. Je voulais savoir d'où vous venez ce goût pour l'histoire, sachant que vous avez été journaliste également, avant d'être romancier.
Ce goût me vient de l'expérience de l'incompréhension. Quand vous êtes journaliste et que vous allez, on vous envoie au Rwanda, on vous envoie en Afghanistan, on vous envoie au Liban, on part avec une idée et face à l'événement, cette idée est balayée par la réalité. Elle est balayée par ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on devine, l'intuition qui s'en mêle. Elle est balayée par le témoignage qu'on vient de recueillir et qui dit tout le contraire de ce qu'on nous a dit avant de partir à Paris, par exemple. Je pense au génocide rwandais en 94. C'est cette expérience-là qui m'a marqué à vie. C'est l'expérience de la vérité historique. Mmh. C'est l'expérience du fait qui est intangible, qui est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est la traduction, c'est comment on met des mots sur un événement en cours. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a 3 ans, quand j'étais en Normandie, je suis au volant de ma voiture et puis je vois un drôle de bonhomme avec un gilet jaune sur un rond-point. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est tard, il devrait rentrer chez lui. Une semaine plus tard, il y en a 6. Au début, je ne comprends pas. Personne ne comprend ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Quelque chose est en train d'advenir. Un événement est en train de se produire. J'en prends la mesure d'emblée? Non, pas du tout. Progressivement, je découvre sa réalité, sa dimension. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'histoire en train de se faire. L'histoire qui n'est pas encore aboutie, l'histoire qui s'amorce et qui sera très différente selon le point de vue qu'on adoptera. J'anime des cours à Sciences Po, des cours de création littéraire, où je mets l'histoire et la littérature, et je donne souvent cet exemple du 14 juillet 1789, quand le peuple de Paris se masse au pied de la Bastille, quand une partie du peuple de Paris se masse au pied de la Bastille, ils sont quoi, une centaine, 150, 200, pas nombreux, ils ont chacun leur idée en tête, cette femme parce qu'elle veut du pain, cet homme parce qu'il veut voir son père emprisonné, cet autre qui est curieux, qui est passé par là, ils ont chacun une idée. Mais pas la même, c'est pas encore un fait qui va se produire, un fait historique, mais ils se retrouvent agglomérés devant ce bâtiment-là et finalement une idée commune va émerger et ils vont se mettre à taper sur la porte. Ce jour, 14 juillet 1789, le boulanger, la femme, l'homme raconteront l'histoire chacun à sa manière. Mais ce même jour, le 14 juillet, le roi est dans son palais, dans son bureau, devant son journal, il écrit tous les jours son journal. Et devant la date, je vous raconte quelque chose qui est authentique. Hein. Voilà, je vois que vous hochez la tête. Ce jour-là, il écrit un seul mot. Et ce mot, c'est rien. Pour le roi, ce jour-là, il ne s'est rien produit. Bon, on sait que surtout, il n'a rien chassé. Mais c'est ça qui m'intéresse. C'est le point de vue, c'est la réalité historique, c'est le fait qui est en train de s'advenir, mais qui n'a pas encore éclos. Voilà ce que j'aime.
D'accord. Justement, par rapport à vos romans, est-ce qu'il y a aussi ce besoin pour vous, puisque vous écrivez surtout par rapport au passé, est-ce qu'il y a besoin pour vous d'une distance avec vos personnages réels? Ou est-ce que vous pourriez écrire justement sur une histoire qui est en train de se créer?
L'histoire que je raconte, elle est toujours en train de se créer, puisque je la prends toujours à rebours. Je la prends par le petit côté de la lorgnette, je la prends au début. Donc, oui, après, c'est vrai que j'en connais la fin, puisqu'elle s'est déjà produite en réalité. En tout cas, les sujets que j'ai déjà traités sont des faits historiques qui sont déjà produits. Mais la réponse, elle se trouve déjà présente dans la question telle que vous l'avez formulée. C'est les personnages existants, mes personnages. On ne produit pas de rien, on ne vient pas de nulle part. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a une figure paternelle, je ressuscite mon histoire. À chaque fois qu'il y a une figure maternelle, je revisite mon passé. À chaque fois qu'un enfant traverse la scène dont je suis en train de décrire les dimensions, je m'y retrouve. Donc la création, elle se nourrit de notre imaginaire et puis de notre vécu, qu'on le veuille ou non. C'est marrant, c'est comme s'il y avait, j'y pense en y réfléchissant, c'est comme si on mobilisait les deux pans essentiels de notre pensée, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ce qui va chercher la documentation dans le fait historique, c'est les livres, c'est tout le travail que j'ai produit pour comprendre une situation. Et l'inconscient, c'est tout ce que je planque, c'est tout ce que personne ne me prendra jamais, c'est tout ce qui est au fond de moi et qui est révélé par, qui est réveillé par, par ce moment-là. Cette lecture de ce livre, cet enfant que je vois, bah tiens, comment j'étais moi, comment j'étais quand j'avais son âge. Ah oui, d'accord, et bien ça vient, mon expérience vient féconder le récit pour le rendre finalement plus humain, hein, pour le rendre peut-être plus vraisemblable, plus sincère en tout cas. C'est-à-dire que je suis pas un historien, je suis pas là pour raconter des histoires de loin. Je suis un écrivain, et en tant qu'écrivain, je raconte ces histoires du cœur. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour elle, j'ai eu envie de les raconter, elle me touchait, et puis parce que en m'y replongeant, en faisant cet effort de se replonger dans l'histoire, de la reconsidérer, eh bien mon cœur a à nouveau battu et mes émotions étaient à nouveau ont surgi à nouveau. Voilà, je le voyais, je le sentais, je le touchais, je l'entendais, je l'ai vu. Et ça, c'est mon inconscient qui vient nourrir ça.
D'accord. Et dans, justement, entre réalité et fiction, comment vous composez, vous arrivez à doser pour que ce ne soit pas un roman historique, pour que la fiction ait aussi toute sa part?
Ben c'est ça. Je tire le rideau. Comme je vous l'ai raconté, je me suis représenté la scène. Mais j'ai la scène, et sur scène, pour bien la voir, j'ai bien tiré grand le rideau. Et puis je suis allé dans les coulisses. Et ça, l'historien, il ne peut pas aller dans les coulisses. L'historien, il n'a pas accès à la régie, il n'a pas accès aux coulisses. L'historien, il est dans la salle spectateur, il est dans les loges, les baignoires ou l'orchestre. Il mémorise, il note, il prend note, hein, il capte l'événement. Mais moi, je vais me balader un peu partout. C'est-à-dire que c'est ce que notre ami Serge Chalandon raconte si bien dans le quatrième mur. Je vais derrière le quatrième mur. Je me balade dans les coulisses. Et les coulisses, c'est ce à quoi l'historien n'a pas accès. C'est en vérité, moins métaphoriquement, les zones d'ombre de l'histoire, les non-dits. Il y a un grand. J'adore, je lis beaucoup Émile Cioran. Il est d'un pessimisme délicieux. Émile Cioran, il a, parmi ses aphorismes si nombreux et si féconds, il a écrit que il n'y a rien de plus difficile à écrire que la biographie d'un homme, et il compare ça avec le fait de raconter l'histoire d'un nuage. Il dit que c'est aussi difficile que de raconter l'histoire d'un nuage. Et j'en accepte l'idée, je la prends, je suis totalement d'accord avec lui. Et en tant qu'écrivain, je m'autorise des choses que l'historien ne peut pas faire, parce que je vois que c'est un nuage, quoi, que je vois que c'est nébuleux, une histoire, une vie, un vécu, un personnage, d'une minute sur l'autre. Ce que vous pensiez tout à l'heure, chère Christine, en menant cette interview, en lançant cette interview, je suis persuadé que c'est pas tout à fait la même chose que vous pensez maintenant. Vous entendez ou vous regardez autrement. Quelque chose a changé. Oui. Et on est fait de ça. On est en perpétuelle évolution. L'esprit humain, il est tout le temps en train de revisiter, reconsidérer, interroger. Et on n'est jamais figé dans une attitude. Voilà ce qui m'a. Voilà. Et ça, l'historien, s'il doit faire une biographie, mettons par exemple de Victor Hugo, par hasard, ça lui prendra 15 tomes s'il veut faire le tour de ce nuage-là. L'écrivain, ça peut faire un livre, il va se promener librement.
Victor Hugo qui vous est cher, je crois.
Oui, oui, j'ai créé un dictionnaire Hugo, un dictionnaire amoureux de Victor Hugo, je pense, c'est ça.
D'accord. Et justement, parce qu'on parle de vos romans, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un extrait du dernier donc, qui est paru cette année, c'est La Revanche des Orages, donc l'histoire de ce pilote américain qui a contribué au bombardement d'Hiroshima.
Alors c'est le chapitre 2. C'est le chapitre 2 du roman. Vous m'arrêterez. Hein. Papa, papa, il est où papa ? Le garçon guette son père. Depuis que des miettes de neige dégringolent du ciel, il ne décolle plus le nez de la fenêtre. Le blanc gomme les surfaces. Sous ses yeux, deux traînées de perles de buée brouillent la glace. Le tapis de flocons recouvre tout autour. Route et toit, branches et boîtes. Une voiture s'avance, très précautionneusement. Le garçon se moque bien des elfes, des élans, du traîneau du Père Noël et de sa grosse hotte en toc. Il n'a que faire des cadeaux qu'on déballe, des verres qui s'entrechoquent et des familles qui se jettent des mots d'amour stériles autour d'une table trop belle, la féerie foireuse. Le seul vœu qu'il formule, c'est que son père vienne. Un papa de chair et d'os, malgré ses grands bras maigres, sa bouille un peu bouffie, ses drôles d'yeux trop ouverts qui ne voient vraiment rien. Vert étrange. Sur la liste de souhaits, il n'a noté que lui, papa. Papa. Quatre lettres recopiées sur chaque ligne de sa feuille. Papa. Il a replié sa liste pour l'attendre à sa mère, voilà. Le soir est arrivé. Dans tous les foyers de toutes les rues du pays, les familles se retrouvent. Sa mère est en cuisine. Son petit frère boude, en tailleur sur son lit, les mains recouvrent ses pieds pour éviter de chausser ses souliers noirs vernis. L'aîné a vu la table, quatre assiettes, six bougies, une ribambelle de verre pour les deux adultes, un seul par enfant. Réponds maman, je le vois pas. La mère s'agite derrière, pianotant sur son fourneau des mélodies sucrées, salées. En chef patenté, elle compose parfois des arias culinaires. Ce soir sans la dentelle et le miel, la radio joue des airs de jazz métaphoriques qui n'ont ni queue ni tête. Il n'aime pas le jazz et déteste encore plus les silences de sa mère. Il s'arrache à la fenêtre, foule la moquette épaisse et tire le tablier. « Dis-le-moi. »« Mais quoi » demande-t-elle, goûtant du bout des doigts la sauce qui mijote. « Il est où, papa ?» La mère pose sa cuillère, sa poitrine gagne de taille puis se gonfle d'autant. Elle s'accroupit devant lui, ses yeux à hauteur des siens, l'enfant est fasciné par le rouge de ses lèvres. Elle ressemble à une plaie. Il redoute les mots qui risquent d'en sortir. Inquiet, il se loge sous son aile. Au bout de quelques secondes, sa main se pose sur lui, le décale légèrement, met un peu d'air entre eux pour qu'elle puisse lui répondre. « Papa ne viendra pas avant. » Mais au lieu de préciser la date de son retour, elle retourne sa question comme un vulgaire caleçon, un vêtement usagé. « Papa est occupé, très occupé. Pourquoi refuses-tu de l'entendre ? Occupé où ?»« À Waco, mon fils, à des centaines de miles. Mais pourquoi il ne vient pas ?» Sa mère se redresse, la radio couvre à peine les bruits de la cuisine, celui de la cuillère qu'elle cogne sur le poêle, le chuintement de la gazinière, le frétillement de l'eau qui monte à la surface de la casserole, puis redescend à temps. « On n'a pas le droit d'y aller, c'est un endroit fermé, fermé. » Ça fait longtemps qu'il compte les jours de son père parti loin. Les semaines qui s'enchaînent, les noms des mois qui passent, c'est là qu'il a compris le sens du mot « saison », ces gros paquets de jours qui font fleurir les arbres, tomber les feuilles dorées, noircir les branches des chênes, jusqu'à ce qu'un hiver vienne tout gommer d'un coup. « Et demain, demande-t-il, il va venir demain, quand tout recommencera ?» La mère éteint le feu, réserve un peu sa sauce et jette un bref coup d'œil à la volaille au four, dont la peau se cloque. « Je vais te charger d'une mission, veux-tu » dit-elle en lui tendant sa boîte d'allumettes. « Gratte-en une et allume les bougies. Mais attention, c'est une mission pour un grand garçon. Tu vas être un grand garçon ce soir ?» L'enfant fait demi-tour. La première bougie l'attend, bien dressée, toute neuve. « Voilà, » marmonne-t-il. Mais son bras est trop court pour atteindre les suivantes. Il fait le tour de la table, gratte, enflamme, s'approche. Il bute sur l'autre assiette face à celle de sa mère. « Maman ?»« Oui, mon fils. C'est pour qui cette assiette ?» Elle se tourne vers la fenêtre, elle aperçoit les phares de la voiture qui se gare, la portière se referme dans un claquement ouaté, pas le moindre bruit de pas. La neige assourdit tout. Elle rajuste ses cheveux noirs et dénoue le tablier qu'elle balance vivement dans un coin de la cuisine, comme un ballot gênant. Elle ajuste le pull vert qui moule sa poitrine, c'est vrai qu'elle est jolie sa mère, tout en longueur, avec de longs cheveux noirs, une taille haut perchée sur des jambes soulignées par la couture de ses bas. Il paraît que des centaines d'hommes et de femmes venaient rien que pour elle, pour l'avoir jouée sur scène avant, dans les théâtres. Ensuite, elle s'est mariée. La sonnette retentit. « C'est qui ?» s'exclame le cadet, déboulant de sa chambre, les pieds nus, les larmes sèches. Un bouquet de fleurs surgit, du blanc, du vert, du rouge. Une brassée de couleurs tendue. Un homme s'incline et ôte son chapeau pour saluer. Quelques flocons en tombent. C'est le type que l'enfant a aperçu l'autre nuit, un bonhomme à lunettes avec un air gentil qui avait plein de rouge sur les joues et dans le cou. Il s'est élevé d'un bond en remontant sa braguette. Bonsoir, monsieur Stan. Quelle mémoire, tu me reconnais ? L'homme se contorsionne pour céder son manteau et découvre un crâne lisse couronné d'une plate-bande de cheveux poivre et sel. Merci, Anna.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci, Sébastien. Et avec le début de ce roman, en fait, je ne vais rien divulguer, mais on sait déjà tout ce qui va se passer.
Comme dans les tragédies.
Comme dans les tragédies.
Vous lisez Antigone de Jean Anouilh, tout est dit dès le début.
Voilà.
Antigone, c'est la petite brune là, qui est assise au fond de la salle, elle veut bientôt se lever, elle sait qu'elle va mourir. Tout est dit dès le début, mais on y va.
Mais on y va, et le lecteur y va. Et je me demandais si la construction de vos romans ne participait pas justement au fait qu'on y va, nous, lecteurs. Parce qu'à chaque fois, dans vos romans, on a plusieurs voix. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pourquoi ce choix de faire se confronter plusieurs récits ?
Parce que c'est toujours la même obsession. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en amorce de cette discussion, c'est l'histoire me plaît parce que elle a la pluralité des points de vue qu'il apporte. Et c'est toujours ça. Voilà un événement, voilà un moment fort, voilà une crise, voilà une action, voilà un temps. Et bien autour de ce temps, il y a autant de points de vue, il y a autant de façons de le vivre, celui du père, celui de la mère, celui du fils.
Je vous propose à présent de faire une petite pause musicale puisque vous avez choisi deux morceaux de musique. Donc on va écouter Murrayhead pour commencer. Murrayhead avec le titre Say It and So. Et vous nous direz après peut-être pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Oui.
So, Joe, please say it ain't so. That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's drum call, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days have gone. The image and the info may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. We pinned our hopes on you, Joe, and they're ruining our show.
c'est sublime. Hein.
C'est très beau.
Qu'est-ce que c'est émouvant, cette chanson. J'ai toujours cru que c'était une chanson d'amour. J'ai toujours cru que c'était un mec qui criait son désespoir parce que il comprenait pas. Alors c'est un mec qui crie son désespoir parce qu'il comprend pas, mais c'est pas à cause d'une femme, c'est à cause d'un joueur de foot. Et Joe, c'est un mec qui a triché et il est désespéré de l'apprendre. Mais non, c'est pas possible, quoi. T'as triché, non. Alors c'est dingue de se dire que en fait c'est très trivial comme histoire. Comment un mec va pousser un cri si sublime, quoi. C'est le cri du cœur avec la grâce parfaite. Pour un joueur de foot qui a juste triché, a priori, et Joe. Mais voilà, c'est comment on peut. Comment une tristesse, comment un dépit, comment une incompréhension peut se loger dans tous les moments de la vie, quoi.
Dans tout. C'est ce qu'on retrouve aussi dans vos livres, c'est aussi ces bouleversements. Pour vos personnages, enfin pas tous, mais des bouleversements, des choix qui font que leur vie bascule et que on a aussi des rencontres improbables. Je pense à ce journaliste dans la fièvre, Keating. Voilà, qui est raciste.
Ouais, c'est le pire bonhomme qui soit. Voilà. Membre du Ku Klux Klan. Un vrai salopard. Mais il voit que sa ville est sauvée par les Noirs, sauvée par ceux qui étaient ses anciens esclaves qui viennent d'être affranchis. Et il change de. Et sa vision du monde change littéralement. Et c'est l'ébranlement, quoi. C'est. Voilà, comment je. C'est Nietzschean. Quelle dose de vérité l'homme peut-il supporter? Et là c'est la vérité qui lui saute à la gueule. Et maintenant, tu vas reprendre tes lunettes, tu vas regarder le monde autrement, et il le fait, quoi. Donc, il y a une honnêteté chez ce salopard qui me touche infiniment.
Oui, c'est un très beau personnage, c'est vrai. Et je voulais vous parler aussi de l'actualité, parce que vous avez fait, en dehors de ces romans, vous avez écrit un récit sur l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Ah oui.
Et vous avez retranscrit toute cette soirée, donc du 15 avril 2019. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets d'actualité qui pourraient vous donner envie d'écrire un roman, cette fois ?
Un roman ou un récit ?
Un roman. Un roman, ouais.
Un sujet d'actualité ?
Oui.
Difficile.
C'est difficile.
Difficile. Un récit, oui, certainement.
Oui.
Puisqu'en fait, on est confortablement installé derrière le témoignage des autres. Un roman sur un fait d'actualité, mais alors un fait d'actualité ou un fait qui pourrait se produire.
Oui. Oui.
Sur le monde contemporain, sur mon quotidien, sur quelque chose qui pourrait advenir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça me tente tous les jours.
D'accord. Oui. Et sur un personnage, une figure emblématique actuelle ?
Sur un personnage vivant ?
Oui, vivant.
Compliqué.
C'est compliqué, oui.
Ouais. Parce que...
Il faut le recul.
Oui, et puis travestir une pensée qui est encore mouvante, hein. Travestir, traduire une vie qui n'a pas dit son dernier mot, c'est prendre le risque de la travestir. Ouais. Par honnêteté intellectuelle, ce serait complexe. Pourquoi pas, mais bon, faudrait y repenser à deux fois.
Autre thème majeur dans vos romans, celui de la vérité. Et dans La Fièvre, justement, donc il y a un échange que j'ai relevé entre les deux des personnages principaux, Anne Cook, donc, qui est tenancière d'une maison close, et Keating, donc ce journaliste, et leur histoire d'amour. Et entre eux, à un moment donné, il y a ces propos. Anne Cook dit à Keating, la vérité, quelle folie, il faudrait se contenter de ce qu'on voit ou de ce qu'on imagine. Pourquoi chercher au-delà ? Pourquoi creuser les tombes ? Et Keating de lui répondre, pour rétablir les faits. Et je voulais vous demander si ce n'était pas votre but à travers vos romans. Est-ce que vous ne cherchez pas à rétablir une certaine vérité ? En tout cas, mettre le projecteur là où l'histoire ne l'a pas mis.
Alors dans ce dialogue, il y a deux vies, il y a deux versions opposées. Hein. Il y a la version dynamique, vivante, presque métaphysique, et puis la version rigoriste, enfermée dans ses certitudes. Hein. Keating, c'est cet homme qui était bardé de certitudes, qui voyait avec ses œillères. Donc lui, il veut rétablir les faits, rappeler les faits pour qu'il cadenasse le quotidien. Elle, c'est autre chose. C'est autre chose. Elle veut vivre l'instant présent, pas rappeler le passé et essayer de trouver du sens dans ce qui n'en a pas forcément, ce qui se ramasse au fil des jours sans lui donner une logique infernale, une mécanique bien huilée de celui qui voit le monde à travers un certain prisme. Quelle est ma lecture à moi de la vérité ? Elle est du côté de Madame Cook. Elle est du côté de Madame Cook et du côté du nuage, hein, comme on l'évoquait
comme
tout,
on
à l'heure,
hein. Tout à l'heure. Oui.
Mais c'est pas pour autant renoncer à l'idée de la vérité ou aux vérités. Elle s'interroge tout le temps, elle se ressent, elle s'éprouve selon le point de vue, selon le parcours de chacun. C'est la question essentielle qui est toujours dans mes bouquins, la vérité. Mais après, le danger, c'est la post-vérité trumpienne, c'est l'horrible post-vérité qui remet tout en question, mais qui n'est pas une vraie remise en question, c'est pas une philosophie, c'est juste une torsion de l'histoire pour y loger un discours et une vision du monde, la post-vérité trumpienne. Je balaye tout parce que je veux que vous regardiez les choses comme moi. Moi, c'est plus à l'échelle de chaque personne, accepter que chacun ait un ressenti différent. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la vérité du cœur de chacun. Chacun porte en lui une version de la vérité.
Tout à fait.
Non ?
Je suis tout à fait d'accord. Sébastien Spitzer, je pense que l'heure avance et que nous allons
arriver... En vérité, il est tard. Il va falloir rendre l'antenne.
Voilà, c'est ça. On est dans le factuel.
Ouais.
Et avant de rendre l'antenne, on va écouter un dernier morceau, le deuxième que vous avez choisi. Donc, c'est America, et c'est A Horse With No Name. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi, rendre l'antenne ?
Parce qu'encore une fois, c'est pas ce qu'on croirait. C'est pas ce qu'on pourrait croire. C'est pas un cheval qui se balade dans le désert. C'est juste l'histoire d'un camé qui devient fou parce qu'il a plus sa cam. Les apparences. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one.
a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Alors Sébastien, dites-nous tout sur ce morceau.
Ah, il faut... Ok.
Ça va être long,
en vérité, mais c'est une balade extraordinaire. C'est une histoire qui raconte, en fait, c'est métaphorique. A Horse with No Name, c'est un mec qui cherche sa cam et qui est désespéré dans ce désert brûlant. Et puis c'est une histoire qui évoque un copain, qui m'évoque l'histoire d'un très bon copain qui s'appelle Jean-Charles Dupuis.
Merci. Merci Sébastien pour cet échange, cet épisode de lecture en tête à tête.
C'est moi qui vous remercie. J'ai passé un très bon moment.
Merci à vous. Et bien, à bientôt sur l'autre radio.